France Musique. Musique et moi.
André Velter.
Priscille Lafitte. France Musique.
Soudain, c'est ainsi. Je te connais au premier regard. Horizon à même la peau. Au premier rythme, aussi je te connais. Et au souffle premier. Je te sais énergie sans repos. Que tu sois prodige, métamorphose ou chaos, en tête à tête, je te connais. Je te rejoins en ardente solitude. Je t'invente un nom de sannyasine. Au vrai de son silence, je t'invente. Je te rejoins à pas démesurés. Sur mon honneur, je te prédis l'ivresse de banquets faméliques. Je te rejoins par-delà les frontières. Je te bâtis un abandon à l'étiage du lac Birandra. Parti où tu es, l'invincible est à ne pas croire, une épée au bord des lèvres. Je te rejoins de cause à effet, et plus jamais de regret. Je garde la colère, et plus jamais de remords. Je réveille l'insouciance, à midi, c'est juré. Je te soulève à contre-pente, l'allégresse vient de faire escale aux confins magnétiques. Tout s'est inversé. L'orage au matin calme, la brume dans les flammes. Je te soulève plus haut qu'il n'est possible, plus inouï qu'il se peut d'aimer. Gymne pour te diviniser. Te voici hors d'atteinte. Je te cherche à l'orée du temps. Rien n'est inachevé.
Nous sommes conviés au mariage de la poésie et de la musique ce matin dans Musique et moi, grâce à la présence d'André Velter, qui aime rien tant que d'unir les mots et les sons. Soyez le bienvenu, André Velter, dans Musique et moi.
Merci.
André Velter, vous êtes poète. Vous avez longtemps dirigé la collection Poésie chez Gallimard, produit une émission consacrée à la poésie sur France Culture, et vous êtes l'auteur de dizaines de recueils, d'ouvrages, impossible de tous les citer. Ce serait donner une préférence à l'un ou l'autre des textes qui surgissent sous votre plume, ou plutôt des livres récitals qui surgissent dans votre bouche, car vous êtes adepte d'une oralité de la poésie. Vous venez justement de nous faire vivre une expérience radiophonique. Merci pour cette lecture. Vous avez lu un poème que vous avez écrit, hymne aux confins magnétiques, qui est issu d'un recueil qui vient de sortir, Séduire l'univers chez Gallimard. Vous l'avez lu sur une musique de Gaspard Claus, violoncelliste. Vous diriez que ce musicien est un vis-à-vis pour vous ?
Vous m'avez demandé un coup de cœur. Alors, vous avez eu le coup de cœur. Et c'est un coup de cœur qui brûle les étapes parce que il n'est pas disponible. Il ne sortira en disque qu'au mois de septembre. Et Gaspard Claus est certainement aujourd'hui le musicien avec lequel j'aime le plus donner des récitals ou faire des concerts ou des lectures. Il y a entre nous certainement quelque chose d'assez magnétique où on s'accorde sans avoir à s'accorder. On répète très peu, mais il a une telle faculté d'écoute et une telle capacité d'improvisation que j'ai toujours l'impression que, à la fois, il me précède pratiquement et il me donne ce sentiment extraordinaire que je vais l'accompagner. C'est pas lui qui m'accompagne, c'est moi qui vais l'accompagner. Et il me mène là où, très souvent, je ne sais pas que je vais aller. Et au fond, c'est la seule jubilation qu'il y a au spectacle vivant. C'est cette façon de ne pas être installé, de ne pas être confortable, d'être toujours dans une sorte d'inconfort créatif, mais là, qui est un inconfort avec une formidable jubilation intérieure. Et Gaspard, il a une oreille absolument merveilleuse. J'ai fait beaucoup, beaucoup de récitals avec lui. C'est un bonheur constant, vraiment. Il est miraculeux, cet instrumentiste, compositeur.
Alors, on va parler de cette union entre les mots et les sons, entre texte et musique, juste après avoir écouté un autre musicien avec lequel vous avez collaboré régulièrement, avec qui la poésie se fait chant, c'est Jean Schwartz.
Tant de sursauts, tant d'oracles pris au mot, tant d'alarmes brûlées, tant de commotions à naître, tant de bruit dans le tournis du monde, tant de soldes au bazar aux esclaves, tant de mises en souffrance. Mais quel royaume, quel royaume! Tant de survivance, tant de dissonance, chaos dans les cordes, tant d'indolence au poker menteur, tant de pronostics ouverts sur la mort, tant de divination et de métamorphose, tant de fièvre noire ou rose, tant de manœuvres enfantées. Mais quel royaume ! Quel royaume ! Tant de surcharges, tant de mannequins et de masques, tant d'autres jeux dans d'autres lits, tant d'incroyables amnésies, tant de rythmes tatoués sur les épaules, tant d'insomnies de plein jour, tant de colportages de désert en désert. Mais quel royaume ! Quel royaume ! Tant de surrections, tant d'insurrections trahies, tant de fleurs fanées, tant de fleurs vivaces, tant de cœurs qui saignent en chantant les coquelicots, tant d'efforts surhumains ou guerriers, tant de vagues qui n'en firent pas, tant de survenus, tant d'innocences imprévues, tant de corps à fleurir, tant et tant de départs et d'errances. Mais quel royaume ! Quel royaume ! Tant de survols, tant d'éclaircies et d'éclairs, tant de ténèbres forcées, tant de désirs jetés aux étoiles, tant d'absences brusquées, tant d'inconnus sur tant de routes rêvées, tant de points encore serrés au matin. Mais quel royaume ! Quel royaume ! Tant de sursis, tant de cendres dispersées, tant d'épées dans les métaphores et les reins, tant de rires partagés, tant de guitares accordées à la nuit, tant de flammes en mal de feu, tant de galop et d'orage. Mais quel royaume ! Quel royaume ! Tant de surprises, tant de défis à la suite, tant d'agonies secrètes, tant d'éclats joyeux avec des lèvres de cuivre, tant de courses sur les chemins des nuages blancs, tant de révélations en forme de grand voile, tant d'ivresse et d'ascèse. Mais quel royaume ! Quel royaume ! Tant de survie, tant d'orient levé comme autant de soleil, tant de sources sacrées, tant d'altitudes inouïes au ciel de la terre, tant de déesses et de dieux oubliés, Tant de promesses sous des fougères sombres. Tant de résurrections à l'arraché. Mais quel royaume! Quel royaume! Tant de surplomb. Tant de refus et d'insouciance. Tant de caresses fausses sans fausseté. Tant et tant d'appels solaires. Mais quel royaume! Quel royaume! Quel royaume! Quel royaume! Quel royaume! Quel royaume! Pour mon amour!
Quelle énergie dans ce royaume, André Welter. Vous l'avez donné sur scène, c'est ça
oui,
que vous
bien
disiez?
Oui, bien sûr, et très souvent. Et j'aime beaucoup dire ce texte à la fin d'un récital avec Jean Schwartz. Le récital est composé avec uniquement des musiques que Jean Schwartz a composées pour moi. Je lui avais demandé de me faire des petits modules entre 1 minute 30 et 5 minutes pour que je puisse faire ce que j'appelle mes chansons parlées. Et tous les textes ont été écrits à l'écoute de la musique. La musique a précédé l'écriture.
Ah, la musique a précédé l'écriture. Qu'est-ce que vous donnez comme contrainte à Jean Schwartz ou
le
comme
temps.
Idée directrice?
Le temps. Là, il m'avait fait peut-être 40 modules, j'en ai choisi 14. Et je peux même vous dire que pour certains des textes, je les ai presque écrits dans le temps de l'écoute. Parce que je me noie dans l'écoute.
Cette transe un peu qu'on entend dans ce texte.
Je suis sur le rythme que Jean me donne et c'est le texte le plus tellurique que j'ai écrit parce qu'il y avait cette musique qui me portait, qui m'a inspiré ça. Je me suis absolument posé aucune question de forme. La forme m'était donnée par la musique, curieusement, et les vers sont venus tout seuls et le refrain, ça m'est venu au début et je l'ai gardé jusqu'à la fin. Et par rapport au texte premier, au fond, il s'agit à peu près de la même chose, de célébrer un amour, et l'un sur une version un peu plus mélancolique ou répétitive d'une certaine manière, et l'autre sur une façon beaucoup plus énergique et glorieuse.
Alors, vous entendez à l'instant dans cette composition de Jean Schwartz, et on va entendre plusieurs voix dans cette émission. En cherchant à connaître les références musicales de votre enfance, vous avez cité deux opéras. Revenons donc aux sources.
Voyons, brigadier, qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans?
J'ai trouvé 300 femmes criant, hurlant, en face d'une femme blessée. J'ai vu mademoiselle Carmen Sita qui serrait les dents et roulait des yeux comme un caméléon.
Et la blessure de notre femme?
Deux balafres à fleur de peau.
Eh bien, la belle, avez-vous quelque chose à répondre?
La 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 la, je brave tout, le feu, le fer et le ciel même.
Ce ne sont pas des chansons que je te demande, c'est une réponse.
La 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 la, mon secret je le garde et je le garde bien. La 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 la, j'en ai mal autre et meurt en disant que je l'aime.
Ah, nous prenons sur ce temps-là. Ce qui est sûr, n'est-ce pas, c'est qu'il y a eu des coups de couteau et que c'est elle qui les a donnés. C'est vous qui la conduirez.
Laisse-moi m'échapper. Tu le feras parce que tu m'aimes.
Moi ?
Eh oui, tu m'aimes, ne me dis pas non. Oh, je m'y connais. Tes regards. Et cette fleur que tu as gardée. Oh, tu peux l'acheter maintenant. Le charme a opéré.
Ne me parle plus, tu entends. Je te défends de parler.
C'est très bien. Je ne parlerai plus. voudriez boire du manzanillo. J'irai chez madame et l'aspastia. Oui, mais toute seule on s'ennuie, et les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est au diable. Je l'ai mis à la porte hier. Mon pauvre cœur, très consolable. Mon cœur est libre, car en terreur. J'ai le canon à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine. Qui veut m'aimer, je l'aimerai. Qui veut mon amour, elle est à prendre. Vous arrivez au bon moment. Je n'ai guère le temps d'attendre, car avec mon nouvel amant, près des remparts de Séville, chez mon ami l'Aspastia, j'irai danser la seque et dire boire du Monzanilio. Oui, j'irai chez mon ami l'Aspastia.
Tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler.
Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu de penser. Je pense à certains officiers, je pense à certains officiers qui veulent, et qu'avons tout, oui, qu'avons tout.
Je suis comme un ami ivre, si je cède, si je me livre, ta promesse, tu la tiendras, si je t'aime, t'emmène, t'emmène, tu m'aimes.
Oui,
chérie d'Aspastia,
nous danserons,
tu la promesses.
Nous voici sur les remparts de Séville, transportés par les voix de Solange Michel et de Raoul Jobin, accompagnés de l'orchestre de l'Opéra Comique de Paris, dirigé par André Cuitens. Mais André Walter, je ne crois pas que vous soyez un enfant du Sud. Vous avez grandi dans les Ardennes. Vous êtes né au début de l'année 1945, peu avant l'armistice du 8 mai. Que représente alors pour vous l'évocation de Séville ?
Il se trouve que à la maison, il y avait très peu de disques dans les années 50. Le premier 30 cm qui est apparu, c'était Carmen. Et mon père, qui était instituteur, assez gentiment anticlérical, avait la manie, tous les dimanches, à l'heure de la messe, de mettre Carmen. Donc j'ai écouté Carmen, dans son entier ou un air par-ci, par-là, pas mal de dimanches de mon enfance.
Donc l'amour plutôt que la messe.
C'était l'amour plutôt que la messe pour mon père à coup sûr, et pour moi aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est de là qu'est née mon hispanité élective, puisque j'ai une passion pour l'Espagne, et en particulier pour Séville, où je vais très souvent.
Donc, vous avez dansé la Seguedi et bu du manzanilla.
La Seguedi peut-être pas, mais écouter du flamenco et danser le flamenco. Je danse pas vraiment très bien le flamenco, je danse mieux d'autres danses, mais écouter du flamenco, oui, j'ai une passion pour... je suis très ami avec Pedro Soler, le grand guitariste flamenco, et puis je peux pas écouter Paco de Lucía sans me mettre debout et sans bouger, quoi. C'est pas possible. C'est très étrange, en effet, pour quelqu'un qui est né dans les Ardennes, d'avoir un tel goût pour l'Andalousie. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'appelle, oui, mon hispanité élective. Je l'ai choisi.
Jusqu'où va votre amour, votre goût pour la musique dans l'enfance? Est-ce que vous vous êtes mis un instrument?
Alors là, mes parents avaient eu la bonne idée de m'acheter un piano, mais je suis tellement mauvais, c'était tellement exécrable qu'ils ont vite renoncé. Et mon père a eu un moment où il a dit non, il faut vraiment baisser le clavier, il faut arrêter ce massacre. Je pense que ça a été une décision de préservation de l'humanité et de mes proches, parce que j'étais très très mauvais. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai plutôt une assez bonne oreille, je crois. Mais la musique, c'est l'un des grands regrets, peut-être le seul d'ailleurs de ma vie, c'est que je suis pas musicien. J'ai une telle passion pour la musique et j'aime tellement les musiciens. Et ils m'agacent. Ils sont tellement doués. Je le suis si peu dans ce registre. Ça me manque. C'est la seule chose qui me manque, c'est de ne pas posséder un instrument. Et surtout, les improvisateurs, alors là, ils me mettent par terre. Parce que on suggère quelque chose et ils le font.
Ouais, on va entendre d'ailleurs de l'improvisation un peu plus tard. Mais restons dans l'opéra, si vous voulez bien. André Velter, vous avez donc eu accès à l'opéra petit. Qui vous amenait à l'opéra d'ailleurs?
Oh, c'est ma mère qui, un soir, je devais avoir 6 ou 7 ans, m'a emmené au Grand Théâtre de Metz, qui était sa ville natale. Et il y avait la Grande Duchesse de Gerolstein. J'ai gardé de cette soirée, mais vraiment un souvenir définitif. Je ne sais pas si c'est la musique, si c'est le décor, si c'est cette salle qui était archi-comble.
L'énergie.
Mais j'entrais dans un univers. Et de cet univers, je sais pas, j'ai dû comprendre ce jour-là que la musique nous donnait accès à plus. à quelque chose de plus vaste, de plus grand, un souffle qui venait nous emporter. Et puis, cette musique-là, même à 6-7 ans, la Grande-Duchesse de Gerolstein, avec cette grandiloquence et ce ridicule à un certain moment, puisque le sabre de papa qu'on vient d'entendre, le capitaine le ramène après la guerre, transformé en tire-bouchon, ça me faisait jubiler tout ça, et j'ai gardé de cette époque-là un vrai goût pour Offenbach, pour ces reprises du cœur qui sont absolument désopilantes, quoi, qui reprennent le cœur entier, qui reprend des phrases assez imbéciles. Dans La Belle Hélène, c'est encore plus extraordinaire. C'est les poux de la reine, etc. Enfin, ou bien mon préféré, c'est Achille, le bouillant Achille. Quand le cœur reprend des phrases qui sont absolument, il y a une jubilation là-dedans. Il y a une joie de vivre, c'est extraordinaire. J'ai toujours gardé une grande tendresse pour la Grande-Duchesse.
On entendait un enregistrement par le chœur et l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Et Régine Crespin était la Grande-Duchesse de Gerolstein. Mais à propos d'Offenbach et de ses livrets de Méac et Halévy, est-ce que vous en retenez aussi un maniement de la langue? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a resté?
Bien sûr. Et pour d'autres, je vais vous dire, l'opéra qui, de ce point de vue, me pose beaucoup de problèmes et élève pas mal de dilemmes et de doutes. C'est le livret de Don Carlos. Vous savez que le livret de Don Carlos, c'est un livret français. C'est écrit en français. Or, l'opéra ne devient célèbre que quand il est traduit en italien. Je crois qu'il est créé en France en 1867, en français, et il est donné en Italie en 84 ou quelque chose comme ça, donc plus de 10 ans après. Et d'un seul coup, cet opéra devient célébrissime. Et pour moi, qui suis si attentif aux traductions, on n'arrête pas de nous expliquer que la poésie est intraduisible. Mais qu'est-ce que cette histoire? C'est stupide. On ne parle pas 50 langues. Or, on a bien besoin d'être capable de lire des auteurs bengalis, des auteurs kalmouks, des auteurs chinois, etc., etc. Et donc, il faut qu'il y ait ces gens qui sont capables de transmission. Regardez dans Don Carlos. Ça vient d'une tragédie de Schiller, Allemagne. C'est mis en musique par Verdi et avec un livret français. Et ça devient célèbre à partir du moment où on le traduit en italien. Moi, je trouve ça merveilleux d'imaginer que les langues ont cette capacité de nous offrir une polyphonie et on choisit finalement. Vous savez, l'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple du Faust de Goethe, traduit par Nerval, qui est une pure merveille. Et Goethe, à la fin de sa vie, ne lisait plus le Faust que dans la traduction de Nerval. C'est pour ça que la poésie, elle est intraduisible, mais il lui faut un co-auteur qui est le traducteur. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce Don Carlos, et je dois avouer, en version italienne.
Alors, j'ai choisi une version française, ça vous
dérange
pas ? Ah
non, ça m'ira très bien.
Avec Joseph Rouleau, Richard Van Allen, l'Orchestre symphonique de la BBC, dirigé par John Matheson.
Oh!
Quel face-à-face entre les voix de Richard Van Allen, la basse Richard Van Allen, et le baryton basse Joseph Rouleau, le Québécois Joseph Rouleau, et cette diction absolument saisissante. Est-ce que d'ailleurs l'intelligibilité du texte importe pour vous à l'opéra? Vous y prêtez attention?
Ah oui, j'y prête attention. Il y a des interprètes qui ont cette capacité, ou plutôt cette attention. Ils font... Il n'y a pas que la tessiture de la voix, qui est magnifique, enfin, évidemment, mais c'est quand même pas mal d'entendre aussi le sens du texte, même si les livrets ne sont pas toujours absolument extraordinaires. Mais là, dans ce duel de basse, c'est tellurique, c'est quelque chose. Évidemment que la musique de Verdi arrache tout, mais vous vous rendez compte, arriver dans un duo comme celui-là, à faire percevoir ce que c'est que l'opposition entre la puissance temporelle et la puissance religieuse. C'est-à-dire que le roi est le grand inquisiteur. Et ça m'a toujours absolument fasciné, ce duo dans Don Carlos, parce que, au fond, je suis totalement séduit par cette opposition tellurique entre ces deux voix, et en même temps, le grand inquisiteur m'est parfaitement odieux. Donc, il y a là un charme vénéneux qui est très très étonnant et je ne peux pas y résister. Ce duo m'a toujours fasciné depuis des dizaines d'années et à chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression qu'il y a un volcan, deux volcans qui sont capables de naître en moi à ce moment-là. C'est absolument magnifique.
Et alors, la distance est-elle mince ou grande entre l'opéra et la poésie telle que vous la pratiquez? Avez-vous des voix intérieures, des voix opératiques?
Ah oui. Oui. Tout à l'heure, le premier texte que j'ai lu, qui s'appelle, c'est un hymne. Alors, pour l'instant, c'est plutôt mezzo voce. C'était pas du tout dans le sens de ce qu'on vient d'entendre. Mais oui, je pense qu'il y a chez moi une écriture assez charnelle et qui va de.
Est-elle lyrique?
Oui. Oui, j'ai pas peur du terme, je sais qu'il est un peu déprécié, mais ça ne me fait pas du tout peur de dire que oui, j'aime le lyrisme, j'aime la voix haute, j'écris à l'oreille.
C'est-à-dire que vous écrivez en parlant?
En parlant intérieurement, oui.
En parlant intérieurement.
Oui, et sans aller jusqu'au gueuloir de Flaubert, oui, je me lis à moi-même mes textes. Quand je les lis en public, je les donne vraiment. Quand je les écris, je me les donne à moi. Mais vous savez, quand dans un vers, il y a une syllabe qui ne va pas ou un mot qui me gêne, mais c'est terrible, c'est comme si on me sciait un nerf avec une égoïne. Tant que je n'ai pas trouvé le rythme que je vous veux, y compris sur une section de poème, je ne passe pas à autre chose. J'ai absolument besoin d'être dans l'harmonie que je veux à ce moment-là. Elle peut être disharmonieuse d'ailleurs, elle peut être dissonante, mais j'ai besoin d'être en phase avec le sens et avec le son.
Qu'est-ce qui fait qu'un texte peut être disharmonique?
Par rapport à ce qu'on veut dire. Oui. On peut avoir à dire des choses qui sont des choses ou cruelles, ou délicates, ou blessées, et peut-être qu'on n'a pas toujours envie d'aller vers un rythme, vous savez... Baudelaire a culminé dans les Alexandrins rimés sublimement, mais on peut aussi avoir envie de temps en temps de tordre ça pour aller vers quelque chose d'autre. Lui, il a réussi ce prodige invraisemblable de garder une harmonie parfaite dans la forme alors que le fond est extraordinairement sulfureux. Je pense qu'aujourd'hui, on a des capacités d'audition qui sont nées de la modernité. Baudelaire, il n'est pas monté en avion, il n'a pas entendu de jazz, il n'a pas entendu des tas de musiques d'aujourd'hui, il n'est pas dans le même univers sonore. Donc nous, avec l'univers sonore qui est le nôtre, avec ce que l'on peut aimer dans cet univers sonore et ce qu'on peut ne pas aimer du tout, mais on fait aussi avec. Et ça, c'est très très important. Et le jazz, de ce point de vue-là, a apporté quelque chose.
Thank you.
New York, 25 mai 1961, Mike Coltrane au piano, John Coltrane au saxophone ténor, Eric Dolphy au saxophone alto, Freddie Hubbard à la trompette, Reggie Workman à la basse et Elvin Jones à la batterie.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le poète André Welter est l'invité de Musique et moi et ce disque, Ole Coltrane, et particulièrement ce morceau-ci, Aïcha, composition de McCoy Tyner. Expliquez-nous en quoi ce disque est important pour comprendre peut-être votre envie de poésie déjà à cette époque.
Oh, la poésie, elle était déjà en amont, mais vous avez rappelé que l'enregistrement était en 61 et j'ai rencontré en 63, j'avais 18 ans, Serge Sautreau avec qui j'ai écrit mon premier livre que nous avons intitulé Aïcha dans la graphie Coltrane. A-I-S-H-A, et non pas dans la graphie arabe. Et pourquoi? Parce que c'était le disque, on était tombé amoureux de Ole.
Vous l'avez écrit sous perfusion coltranienne?
On n'a pas écrit pendant qu'on écoutait le disque, mais on a beaucoup écouté ce disque, même des nuits entières, puisque Aïcha, qui est un poème assez long, hein, il fait à peu près 200 pages, a été écrit dans l'insomnie de 4 ou 5 semaines. Donc on écoutait énormément Charlie Parker et Coltrane. Miles Davis est venu un peu plus tard. Et de ce moment-là, il y a un amour pour Coltrane qui ne s'est jamais démenti, même quand il est allé vers des expérimentations plus orientales, dans lesquelles je me sentais également tout à fait partie prenante. Mais ça, Aïcha a été pour Serge et pour moi vraiment un vecteur. Vous savez, il y a une phrase de Baudelaire dans Fusée où il dit « La musique creuse le ciel ». Alors, moi je mets une petite variante. Je dirais pas que toutes les musiques creusent le ciel, mais ces musiques-là creusent le ciel. Elles vous portent au-dessus de vous-même. Elles vous offrent un surcroît d'espace. Et la poésie, pour moi, c'est aussi ce qui offre un surcroît d'espace.
Mais qu'est-ce qu'il y a justement en commun, de familier dans le jazz, dans l'improvisation? Est-ce qu'il y a une même façon de tourner peut-être autour d'une idée, d'explorer des recoins, de chercher des notes saillantes, de chercher des rythmes?
Oui, chercher des rythmes à coup sûr. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'ai écrit avec Serge Sautreau. Donc c'est un livre que nous avons écrit à deux, et en définitive, comme des instrumentistes de jazz dialoguent entre eux et trouvent des thèmes, trouvent des rythmes, ouvrent des espaces nouveaux, ouvrent des portes nouvelles. Et la poésie telle que nous l'avons pratiquée à ce moment-là était une poésie qui ne reposait que sur l'oralité, puisque on se disait les choses avant de les écrire. Et très souvent, un poème, avant qu'il prenne sa forme écrite, avait eu plusieurs mutations, plusieurs dérives, et un peu comme un musicien de jazz cherche le thème. Et on a cherché le thème de pas mal de nos poèmes, peut-être un peu à la manière de musiciens de jazz, oui. Thank you.
André Velter, vous nous parliez un peu plus tôt de vos jeux d'écriture avec Serge Sautreau. Nous étions juste auparavant avec John Coltrane et McCoy Tyner. Nous voici à présent en Inde. Nous sommes transportés en Inde, guidés par le saxophone de Kadri Gopalnath aux côtés du flûtiste James Newton. Kadri Gopalnath que vous avez pu voir au concert, vous.
Beaucoup, beaucoup, parce que je suis allé très souvent au festival de musique carnatique de Madras. On dit Chennai hein, maintenant.
Qu'est-ce que vous alliez y chercher ?
Oh, j'allais me baigner dans la musique parce que je crois que c'est le festival unique au monde de mi-novembre à début janvier, tous les ans, dans une vingtaine d'endroits, du matin au soir. Vous avez les plus grands joueurs de musique, beaucoup de musique de l'Inde du Sud, la musique carnatique, un certain nombre de grands musiciens de musique hindoustani, donc de l'Inde du Nord, viennent aussi. Et c'est un bonheur total de pouvoir baigner comme ça, de passer d'une salle à l'autre. En fait, on passe sa vie dans les rickshaws pour aller d'un concert à un autre. Tous les jours, le programme est épais comme ça. C'est absolument prodigieux. La seule chose qui n'est pas prodigieuse, c'est l'évolution de Madras, qui est devenue une mégapole absolument polluée, bruyante, etc. Mais si on passe là-dessus, dès qu'on arrive dans les salles de concert, on entre dans un autre monde, dans une autre dimension, avec aussi ce qu'il y a en Inde, c'est-à-dire la musique est un élément de méditation et de développement spirituel, on peut dire ça très simplement. Et Kadri Gopalnath, ça a été... J'ai découvert beaucoup d'autres musiciens que j'ai adorés, mais Kadri Gopalnath, ça a été un coup de cœur. Et c'est pas uniquement pour moi. Beaucoup de gens ont dit qu'après Coltrane, c'était le plus grand saxophoniste. Et bon, je peux pas juger de tous les saxophonistes du monde, mais il était tout à fait extraordinaire. Et j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de concerts, mais il y en a un, entre autres. C'était, je crois, le 1er janvier 2003. Et dans une banlieue de Madras, dans une salle de sport, je suis arrivé là, j'ai vu, je sais pas, peut-être 1000 ou 1500 chaises en plastique, dans un environnement de béton. Je me suis dit, oh là là, ça va être le concert le plus calamiteux. Il y a une acoustique forcément pourrie. Il y avait une estrade qui était vraiment un peu décorée, mais assez moche. Et là, Kadri Gopalnath est arrivé à son ordinaire, c'est-à-dire habillé comme un arbre de Noël. Il s'est assis en tailleur. Il avait à côté de lui sa violoniste habituelle, Kanya Kumari. Et pendant 3 heures, ça a été absolument un enchantement permanent.
Est-ce que, d'ailleurs, vous, dans votre écriture, vous avez aussi des temps de concentration comme ça qui peuvent être longs ? Est-ce qu'il y a des moments de transe ou d'improvisation ou d'écriture qui peuvent durer 3 heures ou ce sont chaque fois des temps courts, des fulgurances courtes ?
Non, j'ai recours aux deux. Il m'est arrivé d'écrire des choses assez longues très très vite. Et au contraire, parfois, en prenant beaucoup plus de temps, et y compris en laissant entre différents moments d'écriture des grandes plages de silence. Je ne suis tenu à rien, j'ai déjà tellement publié que franchement, je ne vais pas accabler mes lecteurs avec des dizaines de livres en plus. Et donc, il faut que l'écriture crée quelque chose de nouveau pour moi. Si je me surprends pas en écrivant, je peux pas être le disque rayé de moi-même, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être, par exemple, là, très récemment, j'ai écrit un poème qui est dédié à un Français qui était installé en Inde et qui a écrit une œuvre que je trouve absolument admirable. Il a pris un nom indien, Sat Prem. C'était un disciple de Sri Aurobindo. Eh bien, c'est uniquement l'idée de vouloir rendre un hommage à ce que la lecture des livres de Sat Prem m'avait donné qui a fait que j'ai écrit ce texte. Je l'aurais pas écrit s'il n'y avait pas eu cette incidence-là. Mais vous savez, un poème, ça vient de n'importe quoi. Vous pouvez avoir mal aux pieds et paf, ça vous déclenche quelque chose. Vous montez l'escalier et le rythme de l'escalier vous donne soit un alexandrin, soit un hexamètre, soit que je ne sais quoi. Et vous arrivez, vous commencez à écrire et il y a tout un poème qui vient après. Il y a un côté aussi dans l'écriture poétique qui est un peu, vous savez, le pullover qu'on détricote et on se rend compte qu'il était là. Et puis, de temps en temps, il y a quand même des moments encore plus miraculeux où on a vraiment l'impression qu'on est en train de recopier une partition.
La clarinette de Michel Portal dans l'adagio du concerto pour clarinette en la majeure de Mozart, accompagné par l'orchestre de chambre de Vienne dirigé par Philippe Entremont. Michel Portal qui a ce don de l'ubiquité musicale, qui est à l'aise dans les vastes champs du free jazz, qui est lyrique dans ce concerto de Mozart. Est-ce que vous comprenez, vous, André Velter, cette possibilité de porter en soi plusieurs voix?
Ah oui, oui. Et j'aime beaucoup que Michel Portal joue du bandoneon et joue aussi de la clarinette, c'est évident. Dans ce Mozart, c'est tout ce que j'aime chez ce compositeur. Je m'excuse parce que c'est un peu banal de toujours parler de Mozart, mais comment ne pas le mettre au centre des musiques qu'on aime? C'est pas possible. On vient d'écouter cette sorte de légèreté, cette capacité à toujours transmuer tout ce qu'il peut y avoir de sombre en nous et en faire toujours une échappée de lumière. Et puis, il y a dans toutes ses œuvres, il y a une sorte d'insolence. Ces sortes de génie qui crépite sans cesse et qui vous emmène toujours un peu plus loin que là où vous voudriez aller et qui vous découvre des endroits que vous n'aviez pas imaginés. Là, l'arrivée de la clarinette c'est quelque chose. Il vous emporte, il vous donne une route supplémentaire. On a l'impression que on est en état quasiment d'apesanteur. C'est-à-dire que on va être capable, c'est pas d'être sur un tapis volant, mais presque. Et donc, d'un seul coup, l'univers quotidien dans lequel on est en est transfiguré. Et c'est quand même une sensation qu'on a souvent avec le divin Mozart, pour ne pas le nommer.
Vous êtes-vous déjà imaginé comme compositeur, André Velter?
Oui, parce que... Oui, de temps en temps, j'ai l'impression que la poésie, je la recopie comme si c'était une partition qui était déjà faite. Ça, c'est quand ça se passe bien. Il y a des moments comme ça, absolument donnés. On a l'impression que ça nous est donné, il y a qu'à recopier. Et donc, je pense que... je vais quand même pas me comparer à Mozart, mais j'ai l'impression qu'il était comme ça. Je crois qu'il entendait la musique et ses partitions, il n'avait pas besoin de les jouer. Je suis persuadé qu'il lui suffisait de mettre les notes et il avait déjà toute la composition. Pour la poésie, il faut peut-être de temps en temps passer par l'écriture quand même et pas uniquement la garder à l'intérieur de soi. Mais j'adorerais ça, pouvoir avoir une portée musicale et mettre des notes qui d'un seul coup deviendraient porteuse de sens. C'est vraiment une fraternité avec la musique, une nécessité absolue. J'ai l'impression que c'est comme avoir un surcroît d'oxygène, quoi.
Quatuor Takács, dans le deuxième quatuor à cordes de Janáček, qu'on entendait de l'entente. Dans quel état vous plonge ce quatuor à cordes, André Walter? Ou plutôt, dans quels états au pluriel? Parce que tellement c'est mouvant.
Je trouve que c'est une merveille de passion sublimée. On voit les différents mouvements et on sait que Janáček a composé ça. Il était amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui, elle avait 40 ans de moins que lui. Et on a l'impression qu'il veut et il ne veut pas en même temps livrer le secret de cette passion qui l'habite. J'ai toujours eu l'impression en écoutant cette lettre intime, puisque c'est le deuxième titre de ce quatuor, qu'il y avait la déclaration de la femme aimée se transformait en une déclaration d'amour à l'amour même. C'est-à-dire comme si il y avait cette capacité à transmuer tout et à faire en sorte que l'amour se dise avec une adresse à quelqu'un, mais avec une adresse encore beaucoup plus vaste. C'est comme s'il y avait le sentiment amoureux, la quintessence du sentiment amoureux. J'aime beaucoup, beaucoup cette œuvre.
Nous voici à l'Orée d'un bois, à l'écoute de François-René Duchâble dans ces scènes de la forêt de Robert Schumann. Est-ce que cet oiseau prophète, d'ailleurs, porte le chant d'un sentiment amoureux, comme pour Janáček?
En tout cas, il l'a porté d'une manière tout à fait miraculeuse. Un soir de juillet 99, dans les grottes de Choranche. Les grottes de Choranche, c'est dans le Vercors. Et dans les grottes de Choranche, il y a le plus grand lac souterrain d'Europe. Et François-René Duchâble, qui, comme vous le savez, n'est jamais à une improvisation spatiale inouïe, grâce à un grand alpiniste qui est Marc Battard, il avait eu l'idée de faire un hommage à Chantal Mauduit, qui était ma compagne, et qui était morte un an et demi avant dans une avalanche dans l'Himalaya. Et il a trouvé ce lieu qui lui correspondait tellement à elle, ce lieu impensable. Il avait fallu monter un radeau à dos d'homme, il avait fallu démonter le piano à queue pour le faire passer par le petit endroit où on entrait dans les grottes. Et donc, le piano à queue avait été mis sur ce radeau. Ça avait été annoncé, le concert. Il y avait 800 personnes qui étaient venues. Or, on ne pouvait faire que entrer que 400. La jauge était à 400. Et François-René a dit, si vous voulez attendre, je ferai deux fois le concert. Et le concert, il faisait 12 degrés dans la grotte. Il pleuvait sur le piano. Quand il a joué Lys, il essorait le piano avec sa main. Et ce radeau qui partait sur ce lac avec Alain Carré qui disait mes poèmes à Chantal et François-René Duchâble qui jouait, je n'ai jamais rien vu de plus exact, de plus miraculeux, de plus sublime dans le sens où tout était en ordre pour lui rendre grâce. C'était quelque chose, je crois que tous les gens qui étaient là ce soir-là, pour les deux représentations, en garderont un souvenir irradié, parce que on était tous serrés dans des doudounes, parce qu'il faisait, je vous dis, 12 degrés, et c'était plus que de la musique, c'était plus que de la poésie. Je vais redire quelque chose que j'ai déjà énoncé un peu avant, c'était vraiment l'amour de l'amour.
Mon amour, dans le présent ruiné, je dirais sa beauté et son rire, sa lumière et sa force. Comme elle va toujours au-dessus d'elle-même, comme elle danse au-delà du dernier pas, je dirais ce qui ne se dit qu'aux anges et aux fées, aux vagabonds et aux amants. Je dirais le midi de nos corps en bataille, le vertige de nos yeux, cette évidence dans nos âmes qui brûlait sans brûler, qui criait sans crier, qui était de pure merveille et de grâce incarnée. Thank you. lèvre à lèvre, et tes secrets sur ma bouche, la bascule de tes cheveux, l'éclat de ta voix, soudain, qui tutoyait les dieux.
On entendait ici la voix d'Alain Carré chantant ou parlant l'un de vos textes, André Walter, je dirais, avec François-René Duchâble jouant une des Fantasiestücke de Robert Schumann, Des Abends, du soir. C'est ainsi que nous allons nous quitter, André Walter. Un grand merci pour ce partage musical, poétique, amoureux.
Merci à vous.
Musique et moi. Merci à toute l'équipe qui a permis Musique et moi, Alex Billard à la prise de son, Marie Grou à la réalisation, Marie Ferdinand pour la préparation et pour la mise en ligne. Passez un très bon dimanche sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.